Ça veut dire que ça va être quand même extrêmement rock'n'roll, et l'Assemblée nationale et la formation du nouveau gouvernement la semaine prochaine, François Pupponi.
Bah, le nouveau gouvernement, soit ils arrivent à débaucher 2-3 députés qui ne sont pas de la majorité, bon, on parle de David Habib, on voit des gens qui ont été élus et qui ne veulent pas... Ouais, qui sont capables de faire de venir. Bon, mais il n'y aura pas de très grosses prises. Bon, donc le gouvernement, ça risque de faire un peu flop. Et puis derrière, ça va être le premier texte sur le pouvoir d'achat. Où là, ça va être la porte ouverte à tout. Tout le monde dit, on va voter ce texte. On est pour le pouvoir d'achat des Français, mais il y aura une surenchère systématique.
Sur telle ou telle mesure.
Donc ça va être difficilement... avec le Bruno Le Maire qui dit ce matin, attention, les comptes sont déjà dans le rouge et on a dépassé la ligne acceptable. Ce qui veut dire, il dit lui, moi, vu de Bercy, on ne peut quasiment rien faire. Les 4% d'augmentation des minima sociaux, mais on ne peut pas faire plus. Bon. Et les autres qui disent, on va vous montrer qu'on peut faire plus. Bon.
Donc là, le bras de fer est entamé. Dans cette loi sur le pouvoir d'achat, on a quelques informations en plus, Alexandre Turvaux, sur ce qu'elle va contenir, cette loi.
Oui, il y a les 18 centimes sur le litre d'essence qui sont prolongés, donc 18 centimes de remise, le dégel du point d'indice des fonctionnaires.
La hausse des APL de 3,5%.
Exactement.
Le plafonnement des loyers, l'augmentation de 3,5%.
Exactement. Enfin, il y a tout un paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat qui avait été... développé, j'ai plus tout en tête, mais...
La retraite, en fait, c'est tous les minima sociaux, y compris les fameuses APL. Les fameuses APL qui avaient été enlevées de 5 euros, donc symboliquement, on y revient. Mais les oppositions disent, la droite dit, nous, on veut les comptes, donc soit on est capable de le financer et ça va, sinon on ne votera pas. Et toutes les oppositions, Rassemblement National et NUP, disent...
Il faut bloquer les prix...
Voilà, Ruffin a parlé de Enfin, je ne sais plus comment il a qualifié tout ça, en disant nous, on veut aller plus loin et on ira plus loin.
Il y a le chèque pour les gros rouleurs aussi, mais c'est aussi sur ce qui vient d'être dit, la droite, enfin, en tout cas les Républicains, eux, ils s'opposent à cette politique de chèque. Eux, ils veulent redonner du pouvoir d'achat par le travail. Et donc, ils vont faire toute une série de propositions là-dessus, mais qui s'opposent à la politique du chèque.
Donc, concrètement, elle ne va pas être votée, cette loi sur le pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire... Si on met les choses bout à bout, l'ANUP, si le
elle sera votée a priori avec la droite.
Oui.
D'accord.
Mais dans des mesures qui...
Mais en rajoutant quelques trucs, alors.
On va un peu rajouter en tenant les comptes. Donc on va satisfaire un peu la droite pour voter le texte, parce que les mesures proposées par l'Assemblée nationale et par l'ANUP seront impossibles à financer. Et donc on va voter avec la droite, et en votant avec la droite, le texte passera, mais ça sera le premier clash. Et je répète, ça sera des dizaines de milliers d'amendements, et la gauche... comme le Rassemblement national, diront, voilà, ces gens-là ne vous respectent pas, ils n'ont rien compris, ils ne veulent pas payer, ils payent les patrons, voilà. Il y aura toute la dialectique derrière. Et donc, ça engage encore un bras de fer pour l'automne, où là, ce sera la loi de finances.
La loi de finances. Mais là, il y aura l'idée
de la droite a une carte à jouer. Si il la joue finement et intelligemment, ce qui n'est pas toujours
pas
gagné d'avance. Mais s'il la joue
avec Marleix, ça va être du bon niveau. Hein.
Absolument. Mais face précisément à une opposition de gauche qui va être hystérisée par la France insoumise, ce groupe réduit à une soixantaine des Républicains peut jouer la négociation avec le gouvernement pour obtenir des choses et ensuite dire aux Français « c'est grâce à nous » et pouvoir démontrer... que précisément, eux, ils sont des gens sérieux, un parti de gouvernement auquel on peut faire confiance et qui n'utilisent pas la situation pour la pourrir, mais l'utilisent précisément pour avancer ses pions et obtenir des réformes du gouvernement.
Et avec...
François, très rapidement, la seule chose qui peut contrarier ça, c'est qu'il y a un congrès bientôt chez LR et que Laurent Wauquiez est pressenti pour en prendre la tête et que Laurent Wauquiez n'est pas particulièrement connu pour être sur une ligne, disons, constructive.
Et avec une donnée qu'on aura après-demain, avec le vote de la présidence de la Commission des finances.
Ah oui, d'accord. Absolument.
Donc là, qui est en piste pour cette Commission des finances?
A priori, c'est Coquerel et le Rassemblement national.
Coquerel de la France Insoumise.
Qui était membre de la
candidature commune de l'ANUPS.
Tout à fait. Okay. Puisque Valérie Rabault a renoncé à se présenter contre
Coquerel. Il a un peu tordu le bras.
Oui, renoncé.
Beaucoup. Le Rassemblement national, qui présentera quelqu'un. La majorité peut-être. Puisque cette fameuse règle de l'opposition, et dans tous les cas, il faut voter dans la commission, et si c'est effectivement un président de la commission des finances, soit Rassemblement national, soit France insoumise, ça va être insupportable, parce que le président de la commission, il a quand même des pouvoirs, il peut déposer des amendements plus facilement, il prend la parole, il dirige les débats, donc ça sera aussi dans ce cadre-là que ça se jouera.
Alors si on fait les comptes, là, parce que vous connaissez parfaitement le fonctionnement de l'Assemblée, qui va être élu ?
Ben, si à un moment on dit il faut que ça soit le groupe d'opposition, oui. Ben, ça veut dire que la majorité et les LR votent pour le Rassemblement National. Mm-hmm. Ils appliquent la règle en disant ben, le peuple a voté et donc on respecte. Ben. S'ils ne votent pas pour l'Assemblée nationale, ça va être un peu ouvert à tout le monde. Et là, bah, c'est au petit bonheur la chance. D'accord. Et c'est en fonction de qui votera, en fonction de ceux qui acceptent mais ou pas.
Je croyais que la majorité ne votait pas dans ce...
Non, la majorité, traditionnellement, c'est... Enfin,
traditionnellement, oui. Mais là, on n'est plus dans la tradition. Oui. Là, le problème, c'est que si elle ne vote pas...
Oui, elle fait...
En fait, c'est les Républicains... Et le Rassemblement national qui voteront pour l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas, ce qu'a dit l'archi en disant il faut que ça soit quelqu'un de l'Assemblée nationale. Donc, si la majorité ne vote pas, effectivement, elle laisse le Rassemblement national, de fait.
Alexandre Chevaux.
Et on lit ce matin, et ça a été confirmé par, enfin, par plusieurs sources, qu'il y aurait une sorte d'accord entre les Républicains et le Rassemblement national pour que Éric Ciotti puisse conserver son poste de questeur à l'Assemblée, en échange de quoi les LR voteraient pour Jean-Philippe Tanguy, le candidat du Rassemblement national, à la Commission des finances. Ce sont des, enfin le vote pour la commission des finances, c'est un vote à scrutin fermé. S'il y a plus de 90 voix pour le candidat du RN, on saura que les voix supplémentaires sont venues des Républicains. Auquel cas, ça poserait une vraie question, parce que il y a quelques mois encore, Xavier Bertrand, par exemple, qui a plusieurs députés qui sont, enfin, qui connaît très bien à l'Assemblée, disait je préfère voter pour un communiste plutôt que pour un identitaire.
Oui, mais Éric Coquerel n'est pas communiste.
Oui.
Oui. C'est peut-être là la petite... Pardon, je vous ai interdit.
Non, mais ça crée une ligne de fracture chez les Républicains, si ça venait à...
Une toute petite pause. On continue à évoquer cette présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale dans un instant, dans Punchline sur Europe 1. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Dans Punchline, on se retrouve avec François Pupponi, Alexandre Chevaux d'Europe 1, Amine Alkatmi, essayiste. François Pupponi, on évoquait la présidence de la Commission des finances, poste stratégique, parce que celui qui la préside peut avoir accès aux dossiers fiscaux, on le rappelle. C'est important. Donc, a priori, on s'acheminerait plus vers un accord LR-RN pour que ce soit un RN, premier parti d'opposition, qui en ait la présidence.
Si effectivement on applique une règle non écrite, mais qui est actée maintenant depuis des années, c'est-à-dire que le groupe majoritaire ne participe pas et laisse le premier groupe d'opposition avoir le poste. On voit bien les LR voter avec le Rassemblement national. D'ailleurs, le président Larcher l'a dit en disant c'est normal que ça soit le Rassemblement national avec une abstention du groupe majoritaire. Bon, ce qui va faire crier les oppositions de gauche en disant voilà, vous êtes complices et vous avez accepté. Mais c'est l'application d'une règle non écrite que tout le monde a respectée jusqu'à présent. Et on ne peut pas dire à la fois on applique cette règle sauf quand les gens ne nous plaisent pas. Oui, que quelqu'un de l'opposition soit à la Commission des finances, ça fait partie de toutes les grandes démocraties. C'est, la France y est venue tardivement, mais toutes les grandes démocraties, c'est le cas. Sous Nicolas Sarkozy. Voilà, donc c'est la règle, bah, il faut l'accepter comme telle. Mais concrètement, ça veut dire que soit la majorité ne participe pas, soit elle vote, ce que je ne crois pas, d'aller voter carrément pour le Rassemblement national, mais on laisse faire. Mm-hmm. Et en laissant faire, c'est les Républicains qui, en fait, ont la clé de l'élection entre les mains.
Alexandre Chevaux.
Si c'était Jean-Philippe Tanguy, donc le candidat du Rassemblement national, ancien membre de Debout la France chez Nicolas Dupont-Aignan, ce serait vraiment une très grande victoire pour Marine Le Pen. Elle a deux objectifs, c'est d'obtenir un poste de vice-président à l'Assemblée, il y en a six, et un poste
qu'elle aura,
la présidence de la commission des finances. Puisqu'on l'a dit, c'est traditionnellement, ça revient traditionnellement à un parti d'opposition, ça installerait définitivement le RN comme le premier parti d'opposition. Elle reprendrait un petit peu la main à Jean-Luc Mélenchon qui avait repris ce flambeau-là après l'élection présidentielle. Et Marine Le Pen, elle fait tout pour... elle agit, je parle sous le contrôle de François Pupponi, elle agit en sous-main, elle appelle beaucoup de députés LR, elle est assez appréciée en tant que femme à l'Assemblée, et elle appelle beaucoup de députés LR pour faire campagne pour Jean-Philippe Tanguy.
D'accord. Ah oui, elle est active, proactive. Elle appelle les députés LR.
Et sur la vice-présidence, c'est pas neutre, parce que c'est pas que du symbole. Hein. C'est-à-dire que les vice-présidents, c'est eux qui, en fait, dirigent les séances. Mm-hmm. Parce que le président de l'Assemblée nationale, lui, n'est présent que le mardi pour les questions d'actualité et éventuellement sur quelques textes un peu importants de temps en temps. Mais le reste du temps, ce sont les vice-présidents qui font fonctionner l'hémicycle. Et sincèrement, avoir des vice-présidents Rassemblement National ou la NUP sur certains textes,
ça change la donne ?
Ben complètement. Le vice-président, il fait ce qu'il veut. Sur les votes, pas sur les votes. Enfin, moi, j'ai assisté à des moments...
Le moment du vote...
En fait, le vice-président, quand les votes à main levée, c'est lui qui compte. Et je peux vous dire que de temps en temps, il a des problèmes.
Oui,
il a
parfois, des problèmes c'est de... à la louche.
Quand même. Plus qu'à la louche. Hein. Bon. Et donc, il fait
c'est
ce qu'il veut.
Qu'il
et quand
la...
le président a dit...
Qu'il n'y ait pas la VAR, en fait.
Quand il dit amendement adopté ou rejeté, on ne peut pas le contester.
D'accord.
C'est incontestable. Le président décide, et une fois qu'il a décidé, on accepte. Et donc, il y aura des situations qui seront homériques, parce que soit on laisse parler le temps. Enfin, le président, qui préside la séance, peut dire bah, « je laisse dérouler le débat ». Et donc, ça prend des heures et des heures où on laisse parler les gens pendant 10 minutes, un quart d'heure.
Alors,
donc,
la tradition, quand même, c'est que le vice-président, quel que soit son camp, essaie quand même... Non, mais je me souviens de séances, par exemple, présidées par Annie Genevard, où elle essayait quand même, qui venait de LR, où elle recadrait parfois, y compris des députés de son groupe d'origine. Il y a d'autres exemples. En général,
bien sûr. Non, mais généralement, le vice.
La règle, c'est quand même que le vice-président.
Voilà. Non, mais ça, c'est la règle. Mais
après, dans la pratique.
Moi, j'adore Annie Genevard, c'est une femme de grande qualité. Oui. Mais sa technique, c'était aussi de laisser parler les gens de son camp. Alors, de temps en temps, elle les recadrait pour faire dire aux autres, voilà, je m'en occupe un peu. Mais sur des débats, il y a beaucoup d'amendements. Oui. Ça prend des heures et des heures. Ou alors, sinon, la règle, c'est un pour, un contre. Oui. Mais ça, c'est quand on a une opposition et une majorité relativement claire. Mais quand il y a autant de groupes, quand on dit un pour, un contre, si les contre, c'est les Républicains, le Rassemblement National et la NUP, il faut bien donner la parole aux trois. Ah, donc là, ça sera trois
contre.
Sauf que la règle, c'est un pour, un contre. Et donc, tout le monde va crier, pourquoi c'est lui qui est contre, voilà. Et donc, en fait, le règlement n'est pas adapté pour une situation comme celle-là. Et donc, c'est là où les présidents de séance ont un rôle important à jouer pour laisser dérouler le débat et ne pas donner le sentiment d'être
passionnant à vivre. On voit que ça va être très compliqué, mais les institutions, on va les pousser jusqu'à leur maximum.
Jusqu'au bout.
Quoi.
Et on va montrer qu'elles ne fonctionnent pas, en fait, tant que ça.
Et c'est quand même le retour du Parlement dans la vie politique. Enfin, on n'avait pas eu ce genre de discussion ici sur un pour, un contre, le vice-président. On ne parle jamais ou on en parle dans les grands moments, quand il y a de grands textes ou quand il y a un incident majeur à l'Assemblée, on en parle dans les émissions. Mais on ne pas. Et là, c'est vrai que pendant quelques mois, enfin, ou peut-être quelques années, s'il n'y a pas de dissolution, la vie politique de ce pays va se passer à l'Assemblée. Oui. Et c'est peut-être dans cette situation un peu baroque, c'est peut-être une des choses dont on peut quand même
bien sûr, se satisfaire. C'est ce qu'on peut espérer. Mais voilà. Pour voir un peu les tenants, ceux qui sont dans l'hémicycle, le risque, c'est qu'on retombe dans les abus de la vie parlementaire avec le déblocage systématique des oppositions. Et ça,
le blocage
complet. Oui. Donc voilà. Et donc, comme il y aura blocage, je ne suis pas sûr que les gens acceptent. L'idée, c'est effectivement qu'il y ait un Parlement qui joue le jeu, mais où tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que les oppositions ne font pas du blocage systématique, déposent des amendements en nombre suffisant pour pouvoir discuter, dialoguer, et que le dialogue, ça sort. Mais quand vous avez des dizaines de milliers d'amendements, et parfois les mêmes déposés avec une virgule différente...
François Péponi, si on fait de la politique fiction, tout est bloqué. Là, tous les textes sont rejetés, rien ne passe. On se retrouve à la fin de l'été, on n'a rien réussi à faire passer. Qu'est-ce qui se passe ? Macron ?
Il faut voter le budget parce que sinon les administrations ne fonctionnent plus. Les collectivités locales ne sont plus financées. Donc il faut voter le budget. Il y a le 49-3, il peut le s'en utiliser qu'une fois pour le vote bloqué par session. Et puis après, on est de nouveau bloqué. Après, les institutions proposent la dissolution. C'est-à-dire que le président dit « je ne peux plus fonctionner », la majorité ne peut pas fonctionner et les institutions ne fonctionnent plus, donc je dissous. Bon.
Je dissous, mais avec quel résultat, quoi ?
Avec quel résultat ?
Et le résultat, si les Français redonnent encore une majorité relative où ça ne fonctionne pas, là, c'est une situation que nous n'avons jamais connue. Et donc, on ne peut plus dissoudre pendant un an. Et donc, pendant un an, il faut essayer d'avancer comme on peut en votant les textes.
Après, oui, toutes les hypothèses sont...
Mais c'est-à-dire que, globalement, il y aura très peu de textes qui seront votés. Et donc, il y aura quasiment plus de...
Dans un pays qui a besoin d'être réformé ?
Il n'y aura pas de loi. Bon. Ou des lois consensuelles. On prend l'exemple là, de l'avortement. Ça peut être des lois comme celle-là, mais où les gens sont d'accord pour dire des lois société, où on dit, OK, on peut trouver un accord global. Mais c'est-à-dire que ce sont négociations, amendement par amendement, article par article, texte par texte. Et ça prend des mois et des mois. Donc, en fait, le système marchera au ralenti.
Donc, c'est la catastrophe, on va se le dire.
Le PIN, ce n'est pas réformable, mais on fonctionnera comme ça pendant 5 ans.
Minel Katmi, sombre perspective, parce qu'on a tellement de réformes à mener à bien dans les prochaines années. Réindustrialisation, défis climatiques, la santé, tout est à réformer. L'éducation nationale, ça laisse songeur.
On a décidé le peuple français a décidé en disant c'est le seul souverain.
En fait, il dit au président, on veut pas de vos réformes telles qu'on les a proposées, on les veut différentes. Donc débrouillez-vous et trouvez une solution. Et alors, avec des gens raisonnables, on peut trouver des solutions. Avec des gens qui ont envie de faire avancer le pays, avec des gens qui veulent faire tomber l'autre et empêcher l'autre d'avancer.
C'est vraiment compliqué. L'intérêt de la France insoumise de jouer le chaos ou pas ? Vraiment, ou pas ?
Oui, enfin pour moi, pour les connaître un peu,
ils ne vont pas montrer qu'ils sont un parti de gouvernement à un moment
quand même ? Non, ça ne les intéresse pas. Enfin, pour moi, ça ne les intéresse pas. Parce que sinon, eux, ils veulent faire tomber le système, la 6ème République, ils veulent autre chose, quoi. Donc, ils n'ont pas envie de participer
donc
à ce système-là.
Ils vont pousser au max. Amine El Khatmi, vous pensez aussi que c'est l'enjeu pour ceux qui travaillent avec Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'est pas à l'Assemblée directement ?
Bah oui, oui. Enfin, on a bien compris que leur enjeu, c'était pas de montrer qu'ils étaient capables de gouverner le pays. Leur enjeu, effectivement, c'est de renverser la table, d'aller à l'intérieur des institutions pour les faire exploser de l'intérieur. Sauf que c'est une stratégie qui peut pas rassembler une majorité de Français. Enfin, moi, je vois pas demain, même s'il y a, je sais pas, on est dans la politique fiction depuis quelques jours, donc on va continuer. Une démission d'Emmanuel Macron dans 2 ans, dans 3 ans, parce que blocage, parce que situation inédite. Parce que je vois pas sur ce profil-là. Où même Marine Le Pen est désormais perçue comme plus rassurante que Jean-Luc Mélenchon.
Ils sont en train de la notabiliser.
Ils sont en train de la notabiliser, et vous avez quelqu'un qui se comporte de manière complètement trublionne, je ne sais pas si ça se dit comme ça.
C'est mignon.
On va inventer des mots.
C'est mignon. Je ne suis pas sûre que ce soit un verbe, mais
comme un trublion.
Voilà,
je ne suis pas sûre que ce soit même de rassurer les Français.
Alexandre Chevaux, le dernier mot.
Non, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, au Rassemblement National, effectivement, Marine Le Pen, ils sont vraiment dans une entreprise de normalisation. La dernière étape, fini le Front Républicain. S'ils obtiennent un poste de vice-président, la présidence de la Commission des Finances, 90 députés, on a vu à leur arrivée à l'Assemblée qu'ils avaient mis tous des costumes cravates, des tailleurs pour les femmes. Ils sont vraiment dans une logique de montrer, ça fait des années qu'on voulait le pouvoir, qu'on voulait entrer à l'Assemblée. On y est, maintenant on va être sérieux, on va bosser, on va proposer des amendements, on va voter les lois qui vont aller dans le bon sens.
Et ils vont travailler, ce qu'on leur a beaucoup reproché sur la mandature précédente.
C'est le projet qu'ils présentent en on comme en off, mais ils sont, contrairement à la France Insoumise et à la NUP en général, dans une logique vraiment de s'inscrire dans un parti de gouvernement, je mets des guillemets, bien évidemment.
Ils veulent se rester.
90 députés, c'est un groupe, c'est des moyens pour le groupe, c'est 2-3 assistants parlementaires par député, donc ce sont des centaines de personnes qui vont travailler pour eux, préparer des amendements, être présents. Enfin, c'est une machine de guerre. Hein.
Surtout, ils seront comptables d'un bilan dans 5 ans.
Oui, mais c'est une machine de guerre.
Si tout cela tient 5 ans. Merci Amine El Khatmi, Alexandre Chevaux, François Pipponi. Bonne soirée sur Europe 1. Dans un instant, Alexandre Lemaire pour les infos et Mouloud Achour, Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.